Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors moi, ma langue de l'amour, c'est le toucher physique. J'aime des petites caresses, un petit bisou, une caresse de la main, une main sur la cuisse, tu vois, ça c'est ma langue à moi. Et je me dis, ah bah si moi j'ai ça, ça va être pareil pour ma femme. Donc je vais la caresser aussi, faire un petit bisou, machin, puis tu te rends compte qu'elle n'est pas satisfaite. Tu te rends compte que sa bonbonne d'amour est vide. Et souvent elle se plaint, ah j'ai pas ce que je veux. C'est de là que viennent les discordes de beaucoup de couples. C'est qu'on va aimer l'autre comme nous on voudrait être aimé. Et tu dis, pourtant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tout ce que t'as fait, c'est ce que t'aurais aimé qu'elle te fasse toi, ou qu'il te fasse toi. Je pense l'idée, et ça change vraiment tout, c'est d'aimer la personne comme elle veut être aimée. Et donc c'est de savoir c'est quoi sa langue de l'amour à elle.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
On est donc avec Jérémy Demey.
Salut.
Salut.
Ça va ?
Oui, et toi ?
Ouais, ça va, merci.
Je suis très heureux de t'avoir. Jérémy, pour expliquer un petit peu ton parcours très rapidement, tu as commencé ta carrière au Québec.
Ouais.
Où tu es devenu une sorte de Gad Elmaleh.
Ok.
Et comme c'était trop facile de rester au top, tu t'es dit, tiens, je vais venir en France ou je vais repartir de pas grand-chose, en fait, parce que les gens te connaissent pas. Ici, en tout cas.
Ouais, je sais pas si c'était trop facile de rester au top. Je pense que c'était plusieurs facteurs. Il y a eu l'envie de reconnecter avec ma famille. Parce que j'ai passé longtemps là-bas, 17 ans. Il y a eu l'envie de revoir mon frère, de travailler avec mon frère, qui est mon producteur. Et puis, il y a eu l'envie de vivre quelque chose de nouveau, je pense aussi. Et aussi, peut-être une peur, tu sais, une peur de... Une fois que t'es arrivé en haut, entre guillemets, la peur de redescendre, je pense. Et donc, changer de pays, tu te dis, bon, bah, là, je ne pourrais pas redescendre parce que je suis déjà en bas. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout, tu vois.
Ce qui est marrant, c'est que t'as démarré au Québec, en fait, là où, en général... On va plutôt se dire, ok, tu démarres en France ta carrière et puis après tu vas outre-Atlantique pour essayer de te faire un peu plus connaître et tout. Toi, tu l'as fait dans l'autre sens.
En fait, je vais dans l'autre sens parce que je faisais des études de commerce, je faisais l'ESC Marseille à l'époque et j'avais un stage de fin d'études à faire à l'étranger. Et je savais que je voulais devenir humoriste. Et donc, je me suis dit, je vais mêler ce que je dois faire, un stage, à ce que je veux faire humoriste. Et j'avais entendu parler du festival Juste pour rire à Montréal, qui est le plus gros festival d'humour du monde.
Le fameux.
Mmh. Et donc, je me dis, je vais aller faire un stage là-bas. Et donc, je débarque là-bas. Je reste là-bas 6 mois, je tombe amoureux de cet endroit, de ce pays, des gens. Et puis je me suis dit, je vais rester un peu. En fait, on m'a conseillé, on m'a dit, reste 6 mois, 1 an, apprends ton métier ici, parce que les Québécois sont bons pour l'humour, et reviens en France. Et je dis, bonne idée. Donc je me suis dit, je vais rester 1 an. Et finalement, je suis resté 17. Tu viens de cracher ton eau par contre.
J'ai craché.
Faut le dire aux gens que ta mousse de micro est remplie d'eau.
Oh merde, ouais, c'est le Covid. Oh là là, c'est bientôt la fin. Tu me fais rire. Ok. Je suis allé voir ton spectacle.
Ah, t'es venu ?
Bien sûr.
T'es venu quand ?
Mec, tu crois que...
Bah, je sais pas.
J'ai fait mon travail, quoi.
J'en sais rien, t'es venu quand ?
Je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines,
je crois. Ok, ok, cool.
Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un... C'est à mi-chemin entre un spectacle d'humour et un stage de développement personnel. Non, mais c'est vrai.
Un peu. En fait, c'est un show d'humour sur le bien-être, je pense. Avec comme trame de fond... Le bien-être. Alors, tu le sais, hein, c'est des blagues la majorité du temps. C'est vraiment des blagues. Non, mais faut le dire aux gens. Faut pas dire, ils viennent pas voir une conférence.
Oui, c'est sûr.
Ils viennent voir un spectacle d'humour, mais avec un fond ouais, de bien-être, je pense. Et ça fait partie de moi et j'ai envie de donner ça aux gens.
On va en reparler, mais t'essaies de diffuser un message d'amour.
Ouais.
D'une manière générale, j'ai l'impression.
Ouais, un message d'amour, de bien-être, de joie, tu vois. Et puis, tu sais, quand je parle aux gens, je me parle aussi, hein. C'est pas, je me place pas au-dessus des gens, je suis pas meilleur que ces gens-là. pour trouver la recette du bonheur. Je suis juste intéressé par ça. Et donc, quand je leur parle, je me parle. Mais c'est un message d'amour, ouais.
On va reparler. Mais tu sais, donc, ce podcast est là. On est là pour parler de masculinité. La première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec?
Ah, c'est une bonne question.
C'est une question à la con, hein.
C'est quoi être un homme? Non, c'est pas une question à la con. C'est vraiment une bonne question. C'est quoi être un homme? Est-ce que, on sait plus trop en 2022 si le physique limite le fait, entre guillemets, tu vois. Si je te dis j'ai un pénis, des poils et une glotte, est-ce que ça fait de moi un homme? Oui, selon moi. Après, c'est quoi être un homme? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Ouais.
95% des mecs sèchent total.
Hein, sèche total, hein.
Bien sûr. C'est le principe.
Je suis très curieux. Si je te pose la question à toi, qu'est-ce que tu réponds?
Oh, le mec. Ça, on me l'a déjà fait 42 fois. Les gens s'en foutent. Ils veulent plus entendre ma réponse.
C'est vrai.
Mais en gros, ouais, pour moi, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est à complètement redéfinir, quoi. Tu vois, aujourd'hui en 2022. Où on. T'as 40 balais, c'est ça?
Non, j'ai 39.
Pardon.
Non, t'excuses pas.
Très important.
Non, enfin, c'est pas important.
Ça change tout. mais en gros, moi, j'ai 44, tu vois. J'ai été élevé par un père à l'ancienne, quoi.
Ouais.
Qui a été lui-même élevé par un père à l'ancienne.
Ouais.
Et moi, je me rends bien compte que c'est pas possible d'être le même mec que mon père a pu être par plein d'aspects, par plein d'autres aussi, sans doute, ouais, parce qu'en fait, il y avait plein de trucs. Très positif dans tout ce qu'il est. D'ailleurs, il est toujours. Non, mais tout ce qu'il a pu être pour moi, par exemple, pour un père, comme en tant que père. Mais je sais très bien que en tant que mec et en tant que père, parce que j'ai deux filles, il y a plein de choses à changer. Et en fait, il y a pas de modèle. Je sais pas comment tu vis ça.
Le fait d'être un homme ou le fait d'être papa?
Le fait d'être un homme. On peut commencer par là.
En fait, je pense un homme, ça a des caractères physiques pour moi. C'est-à-dire un pénis, c'est-à-dire une glotte, c'est-à-dire une voix plus grave, même s'il y a des femmes qui ont des voix graves, mais je veux dire, en général, c'est masculin. Et je pense le fait de me sentir responsable de ma famille. Je sais pas si ça rentre dans le fait d'être un homme, mais...
Il n'y a pas de bonne réponse. Hein,
non, il n'y a pas de bonne réponse, t'as raison. Le fait d'être, pour ma fille, la reconnaissance... Je pense que la maman, c'est beaucoup l'amour, la douceur, et le papa, c'est beaucoup la reconnaissance. Et aussi, même si la mère, c'est ça aussi, mais le côté discipline. On dirait qu'il y a toujours... Si, je vais le dire à ton père. Tu sais, le père est devenu un espèce de...
Ouais.
Après, est-ce que c'est vrai? Pareil, je sais pas, c'est une phrase que j'ai entendue quand j'étais petit, mais est-ce que c'est être un homme? C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça, pour moi, ça s'arrête au caractère physique.
Ok.
Même si des gens vont dire, non mais attends, c'est pas parce que t'es dans un corps d'homme que t'es un homme. Il y a beaucoup de gens, tu peux être une femme dans un corps d'homme. Moi, je suis un homme dans un corps d'homme. Donc, je suis un homme. Mais je pense que ça se limite à ça.
Ouais, et puis il y a plein de femmes qui ont aussi une forme de ce qu'on pourrait appeler d'énergie masculine, quoi. Tu vois, qui sont très... Si on va vraiment dans les clichés, tu vois, autour de l'énergie, d'aller vers une forme de... d'action, de, enfin tu vois, tous les trucs qu'on met de façon un peu cliché derrière comment dire des qualités masculines, quoi.
Mais c'est vrai, la force en général,
ouais.
un homme est plus fort qu'une femme en général. On va se le dire, ça,
je crois qu'on peut le dire, oui.
En général, les hommes sont plus grands, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que tu me poses la question que je cherche en même temps. En général, un homme a un pénis et une femme non.
Ouais.
En général,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Je parle de généralité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de généralité. Donc, je te dirais des attraits physiques, je pense. Mais c'est okay. Vrai que, tu vois, moi, je suis un homme, mais j'ai été élevé par des femmes.
Ouais.
Par ma mère et, plus ma mère que ma sœur. J'avais une grande sœur, donc, je suis un homme avec une grande sensibilité. Et puis, je pense que même, je suis hyper sensible. Mais, c'est marrant parce que j'arrive même pas à répondre à cette question de façon claire et simple.
Il était où, ton père?
En fait, il est mort quand j'avais 8 ans.
Ok.
Il est mort quand j'avais 8 ans, puis avant, je le voyais pas beaucoup, parce qu'il travaillait beaucoup. Et donc, j'ai très peu de souvenirs. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir grandi majoritairement sans papa.
Et t'as la sensation qu'en fait, le fait d'avoir manqué de ce père, t'as manqué justement en grandissant, toi, en tant que mec?
Ouais, je pense, ouais. Tu sais, en général, ce que donnent beaucoup de papas, pas tous, hein, mais c'est le côté un peu débrouillardise, le côté... Il y a beaucoup de pères qui enseignent à leurs enfants, surtout à leurs fils, père en fils, mais construire des choses, et rénover, construire, tu vois, aller à la pêche, des activités dites un peu d'hommes. Et moi, j'ai pas eu ça. Donc, comme j'ai pas eu ça, ben, je sais pas. Moi, je me suis défini avec mes oncles, avec avec Brad Pitt, avec tu vois. Quand je dis ça, c'est parce que c'est des acteurs dont, que j'admirais ouais. Quand j'avais 12 ans. Donc, je me suis fait sur plein d'hommes. Et donc,
t'as grandi aussi non avec genre Schwarzenegger et Stallone, ouais, tout ça non?
J'ai grandi avec tous les modèles que je pouvais trouver, les gars de Friends à l'époque.
Ouais.
C'était la mode. Mais je me suis fait sur plein de modèles sans avoir un qui me dit voici mon fils la vie, voici ce que c'est, voici tu vois, j'ai pas eu ça. Donc on dirait que je sais même pas c'est quoi pour moi grandir avec un modèle masculin. En fait, je sais pas ce que c'est.
Ça te manque un peu, t'as l'impression?
Ouais, ça me manque et ça me...
Ça t'a manqué, ça te manque
Ça m'a manqué et je pense que ça manquera toute ma vie. J'ai cru bêtement un jour que j'arrêterais de pleurer mon père, mais je pense que je le pleurerai toute ma vie parce que... Je pensais qu'il y avait un réservoir à ça et qu'une fois que j'aurais beaucoup pleuré...
Réservoir de tristesse.
Ouais. Je l'aurais vidé et en fait, j'ai toujours pas vidé. Et il m'arrive encore de pleurer quand je vois des scènes au cinéma et je pense que ça arrêtera pas en fait. Et un peu, en plus, c'est une façon de me rappeler que je l'aime, tu vois.
Ouais.
C'est une façon de me rappeler qu'il est là, dans mon cœur, en fait. Un peu.
T'as un peu l'impression qu'il y a une forme de blessure en toi qui t'a vraiment défini, qui peut-être même t'incite à aller sur scène, quoi.
Ouais. Je pense que oui.
C'est quand on y réfléchit deux secondes, je sais pas si les gens s'en rendent bien compte, mais d'ailleurs, alors ça, je crois que t'en parles dans ton spectacle, mais. Ou en gros, c'est complètement dingue de te retrouver seul face à un public de, que ce soit 50, 200, 1000, 1000 personnes, quoi.
Ça, c'est bizarre comme métier. Hein.
C'est complètement fou.
D'avoir la prétention de te dire, je vais aller sur scène, vous faire rire avec un micro. Faut être un peu fou. Un peu con et un peu courageux, je pense.
Faut avoir besoin d'amour.
Faut avoir besoin d'amour. Faut avoir besoin de reconnaissance. Faut avoir, je pense que la plupart des artistes qui font ça ont une blessure quelque part en eux. J'ai l'impression. Pas tous, hein. Il y a des gens qui ont eu des parents aimants et présents. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu d'entre nous, parce que je suis là-dedans, qui ont eu des blessures, tu vois. Et donc, moi, je pense que, ouais, la mort de mon père a fait que, entre autres, j'ai eu besoin de reconnaissance. Et maintenant, je monte sur scène pour la rechercher.
Ouais. Je t'ai vu dans une vidéo, que t'as publiée dernièrement sur Insta, interpeller des mecs et leur dire je t'aime
ouais.
Et de voir un petit peu comment ils réagissaient. Pourquoi t'as eu envie de faire ça?
Parce que plein de raisons. Déjà, je pense que ça fait du bien. On en a besoin, surtout après 2 ans de qu'on vient de vivre, surtout dans l'ère dans laquelle on vit. Parce que je pense que le digital est important aujourd'hui pour que les parce que j'ai envie que les gens aussi viennent dans la salle. Tu vois, il y a plein de raisons à ça, mais une fois que les gens sont dans la salle à Paris, je passe un super bon moment. Et puis, s'adapter à un public différent du Québec, ça a été tout un travail. Mais maintenant, l'idée, c'est de les faire venir. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de beau et de cool? Puis, le fait de dire je t'aime à des inconnus, on dirait que c'est propice aujourd'hui. Donc, j'ai eu envie de faire ça, tout simplement.
Et les gens, ils te répondent comment? Parce que j'imagine que t'as fait un montage.
Ouais. Il y en a beaucoup qui s'en foutent.
Ouais.
Beaucoup qui regardent pas, beaucoup qui... Je sais pas si c'est propre à Paris ou propre à la France en général. J'ai l'impression que c'est Paris. Mais ouais, on a perdu ça. Hein. On a perdu ce contact humain-là. On a perdu cette envie de connecter les uns aux autres. Il y a quelque chose de bizarre. Hein.
C'est différent du Québec, tu crois?
Ouais.
Vas-y, raconte.
Au Québec, il y a quelque chose de bienveillant. Il y a quelque chose de chaleureux. Les gens sont... Il y a une fraîcheur humaine qu'il y a... Mais attends, je dis au Québec. Parce que quand tu vas dans d'autres villes, Bordeaux, Marseille, tout ça, les gens sont beaucoup plus cool que Paris. Et moi, je connaissais pas cette différence-là parce que j'ai vécu toute ma vie adulte à l'étranger. Mais il y a une vraie différence entre Paris et le reste. Et ça, je pense que tout le monde le dit. Donc, j'ai pas envie de parler pour le reste de la France. Ouais. J'ai envie de te parler pour Paris. Et pour Paris, il y a une vraie différence parce que les Québécois sont des gens chaleureux. Des gens, là-bas, tout le monde se tutoie, tout le monde, tu vois, il y a un truc plus cool. Tu sens que c'est plus cool. L'énergie, tu sens que c'est plus cool l'atmosphère des Québécois. Donc ça a été vraiment drastique, le Québec-Paris, tu vois.
Comment t'as fait pour adapter? Tu disais que t'as eu besoin d'adapter ton spectacle. Qu'est-ce que t'as eu besoin d'adapter exactement?
En fait, il y a beaucoup de blagues qui sont les mêmes, mais tu lis d'une façon différente. Je pense qu'il faut leur parler différemment aux Français. Pour toucher le Québécois, il faut que tu passes par le cœur. Et pour toucher le Français, il faut que tu passes par l'intellect.
Par la tête.
Par la tête. Et une fois que t'es passé par la tête, tu peux rentrer dans le cœur. Mais en France, on est très, très, très cartésien, très rationnel, très dans la tête. Alors qu'au Québec, on est très dans le cœur. Et aussi, j'ai voulu prendre soin de faire un spectacle qui soit vraiment axé sur le bien-être. Je pense que c'est ni... En fait, j'ai fait deux one-man shows au Québec. C'est ni mon premier ni mon deuxième. C'est vraiment un mélange de deux. En se disant, j'ai vraiment envie de créer un show à part. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de shows à Paris. Hein, il y a deux ou 300 par soir, je pense.
Beaucoup. Ouais.
Il y a beaucoup. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de se différencier si je veux me faire remarquer par le public. Et donc, j'ai voulu vraiment créer un truc vraiment qui se différencie des autres. Et j'espère que j'ai réussi.
Pourquoi t'as appelé ton spectacle « Enfin vivant »
Parce que c'est
lourd quand même. Comme, c'est pas anodin, quoi, tu vois.
C'est vrai, hein.
C'est pas Jérémy Demey de retour sur scène, non.
Enfin vivant. Parce que j'avais lu une phrase un jour d'un gars qui s'appelait Oscar Wilde.
Petit auteur, hein, qui gagnait à être connu.
Qui gagnait sa vie, qui gagnait le SMIC à l'époque. Qui disait « Peu de gens vivent, la plupart ne font qu'exister ». Et cette phrase m'avait marqué. Et j'ai eu une espèce d'envie de chercher c'est quoi se sentir vivant. Et je pense que je suis toujours sur ce chemin-là. Et donc c'est pour ça que le titre, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de humainement beau à appeler un show comme ça, tu vois. Je pense que on est tous en vie, mais est-ce qu'on se sent vivant? C'est vraiment une vraie question, tu vois. Parce qu'il y a une différence pour moi être en vie ou se sentir vivant. On est tous en vie, mais est-ce que vraiment tu te sens vivant? Est-ce que vraiment t'es dans la joie? Est-ce que vraiment t'aimes ta vie? Est-ce que vraiment, tu vois? Est-ce que tu permets d'exprimer tes émotions? Est-ce que tu permets de faire ce que t'as vraiment envie de faire, ou tu fais ce que les autres veulent que tu fasses? Il y a plein de questions comme ça. Et je pense que chacun trouve son chemin là-dedans, mais c'est des questions humaines qui me plaisent.
Tu te sentais pas vivant avant?
Non. Je pense que j'ai existé une bonne partie de ma vie. Et voilà. Et maintenant, je suis sur ce chemin-là de vouloir me sentir vivant. Et je pense que c'est un work in progress dans lequel je suis encore.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
T'as fait une dépression, hein?
Ouais. En 2009, ouais.
Tu racontes. comment t'as réussi à gérer cette dépression? C'est un vrai problème. Alors, c'est un vrai problème post-Covid, tu vois, d'une manière générale. Mais c'est un vrai problème chez les mecs, la santé mentale. Parce que les mecs, d'une manière générale, prennent pas soin d'eux, donc ça c'est statistiquement, quoi, tu vois. Mais alors sur la santé mentale, où il n'y a pas de blessure évidente, quoi, encore moins, quoi. Et toi, comment t'as fait à l'époque?
En m'ouvrant à tous les outils que je pouvais découvrir, avec comme base la volonté d'aller bien, la volonté d'aller mieux, et m'ouvrir à toutes les choses que j'aurais pu trouver clichés avant, ou un peu con, ou un peu d'aller voir une psychologue, à essayer de la méditation, en passant par différents thérapeutes, en regardant des lits, en écoutant des audios sur Audible, vraiment j'ai voulu m'ouvrir à tous les outils que je pouvais trouver pour que les choses changent, tu vois, parce que je voulais pas prendre de médicaments d'antidépresseurs, même si je suis pas contre le fait d'en prendre, parce que
ça peut être une béquille, hein,
ça peut être une béquille
quand on a besoin.
Je pense que c'est une béquille. Je pense que c'est une bonne béquille, mais comme un plâtre, à un moment donné j'ai l'impression que c'est nécessaire de l'enlever, tu vois. Et moi j'ai pas voulu commencer ça, parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui prenaient des antidépresseurs mais qui étaient encore déprimés, comme si c'est quelque chose qui calmait un peu mais qui résolvait pas le problème. Et donc moi je me suis dit, je veux aller à la racine, tu vois, je veux. Et d'où ma rencontre avec des gens comme Franck Lobvet, avec plein de thérapeutes, avec plein d'outils différents, et d'où ce show-là d'ailleurs. Parce que c'est devenu moi, ça fait partie de ma vie de tous les jours maintenant. Je suis vraiment là-dedans, tu sais, j'ai une routine que je garde tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. mon bien-être. Trop peut-être.
Ah ouais?
Ouais, je pense. Je suis tout le temps à la recherche de... Tu vois, c'est devenu presque une obsession. D'être à la recherche, de découvrir des nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses, tu vois. Comme si j'arrivais pas à vivre ma vie simplement sans vouloir chercher des choses.
Mais je crois que c'est un peu le problème de la thérapie d'une manière générale. C'est qu'à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dedans, tu te rends compte en fait que c'est limite infini et que tous les trucs que tu croyais vrais auparavant ne le sont pas. Et donc t'as qu'une envie en fait, c'est d'aller creuser en permanence ce qu'il y a derrière quoi.
T'as qu'une envie, c'est d'aller à la rencontre de ce que t'es.
De qui tu es profondément quoi.
Ouais. Et je pense qu'on a besoin de ça. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y a des gens qui sont très heureux à vivre leur vie sans se poser de questions. Et c'est génial pour eux. Honnêtement, je les envie. Mais moi, j'ai eu besoin de ça, d'aller à la rencontre de moi. Et je pense que ça, cette dépression-là, c'était un espèce d'alerte. De OK, c'est le temps d'aller à la rencontre de toi. C'est le temps d'aller regarder tes blessures en face, d'aller regarder tes côtés sombres en face, d'aller, tu vois, d'arrêter le déni et de passer à côté. Il faut que tu ailles dedans. Que la meilleure façon de guérir quelque chose, c'est de plonger dedans, je pense.
Qu'est-ce qui est. Sur quoi tu faisais des dénis?
Bah, mes émotions, beaucoup d'émotions.
Ouais.
Tu sais, moi, j'ai grandi, premièrement, en me coupant de mes émotions à la mort de mon père. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas des gens qui exprimaient leurs émotions. Donc, j'ai jamais appris ça. Et je pense que les émotions, c'est quelque chose de nécessaire, indispensable même en tant qu'être humain. C'est ce qui nous rend entre autres vivants, c'est nos émotions. Je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que les animaux ont des émotions? Est-ce que.
Ah, je ne sais pas.
Voilà. Tu vois, c'est une question peut-être un peu conne. Pour tes auditeurs, mais je pense qu'il nous rend des êtres humains, c'est nos émotions. Et les exprimer, elles sont là pour quelque chose.
Je crois que c'est si on peut, par exemple, tu vois, tu peux faire peur à un chien, tu peux faire peur à un animal.
Mais est-ce qu'ils ont différentes palettes d'émotions?
Je ne sais pas.
Tu vois,
est-ce qu'un chat peut ressentir de la joie? Je ne sais pas. Quand il est en train de se faire caresser le ventre, quoi, tu vois.
Je pense que beaucoup de gens trouveront cette réflexion conne, qui nous écouteront parce que peut-être que la réponse est évidente, mais nous, toi et moi, on la connaît pas. Voilà. Tu vois, les émotions, ça c'est quelque chose d'hyper important que j'ai découvert, de connecter avec et de les ressortir. Et même encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal. Je suis pas encore un pro des émotions et nommer chaque émotion que je ressens et la ressortir, tu vois. Et pareil, c'est un work in progress dans lequel je suis. Et
tu crois qu'on devient un jour un pro, comme tu dis, parce que il y a un truc de performance derrière qui est bizarre aussi, tu vois. Juste essayer d'aller. Y aller, quoi, tu vois.
Je pense qu'il y a des gens qui ont appris à le faire. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est là. Un gars comme, justement, mon ami Franck Lobvet, que tu me parlais tout à l'heure, lui...
Franck, il est... C'est un thérapeute, en fait.
Ouais.
Il est coach slash thérapeute. Il fait plein de trucs. Et il a une chaîne sur YouTube. Et donc, t'avais cette fameuse... T'as fait une émission avec lui que j'écoutais juste avant de venir. Et c'est là que j'ai... OK, quitté.
Ouais. Il est très, très connecté à lui et aux autres. Et il y a des gens comme ça. Et moi, j'ai envie ça aussi. J'aimerais avoir cette, tu vois, ce truc-là, mais je l'ai pas, pas encore. Et j'espère qu'un jour ça viendra, mais je l'ai pas encore. Mais ta question c'était, t'as oublié aussi?
Non, ouais, non. Il y a un côté, il y avait un côté. Tu disais, je suis pas encore un pro des émotions.
Ah ouais.
Et tu vois, je disais, bah, est-ce qu'un jour tu deviens un pro, quoi? Tu vois, je sais pas.
Non, mais je pense qu'à force de le faire, tu les nommes et tu les ressens plus facilement. Plus tu le fais, plus tu vois, c'est comme tout, je pense. Plus t'apprends à les nommer, parce qu'il y en a beaucoup, plus t'apprends à comprendre comment tu te sens et ce qu'il y a derrière, et plus, à force de le faire, tu deviens meilleur à meilleur, comme du sport, comme tout, quoi, je pense. J'ai l'impression.
T'as la sensation que tu disais tout à l'heure que ce spectacle, c'est aussi un peu ta thérapie?
Est-ce que c'est ma thérapie? En fait,
quand
non.
Je parle aux gens, je me parle à moi aussi.
En fait, les partages humains que je fais dans ce show-là, je les fais aux gens, mais je me les fais à moi, je me les dis à moi, tu vois. Y a un truc à la fin de mon spectacle où je donne un message au monde entier et je leur... si je pouvais parler au monde entier, qu'est-ce que je leur dirais pendant 2 minutes? Et je pense que je parle aux gens, mais je me parle aussi à moi. Parce que finalement, je me considère pas séparé des gens. Je pense qu'on est tous reliés, on est tous... ce que je vois chez toi, je l'ai chez moi. Tu vois, on n'est pas vraiment différents, toi et moi. On a des qualités, des défauts différents, mais la base, on est très, très pareil. On a tous les deux besoin d'amour. Tu vois, on est tous les deux.
Qui n'a pas besoin d'amour?
Ouais, je sais pas. Il y a
peut-être des sociopathes, tu vois. Je me dis Vladimir Poutine. Mais encore, même pas. Je crois que Vladimir Poutine, au fond de lui, c'est juste un petit garçon qui a besoin d'amour, quoi. Tu vois.
J'ai l'impression que ce gars-là, c'est un gars qui a beaucoup manqué d'amour. pour moi, et qu'elle a besoin de beaucoup, t'aurais besoin de ses parents qu'ils fassent un gros câlin en disant maintenant c'est fini, Vlad, stop, là t'es en train de faire n'importe quoi. Là. Mmh. Et justement, je pense que lui a besoin de ça, plus que beaucoup de gens. Mais on a tous besoin de ça, je pense. Plus on dévie, plus c'est, on en a manqué, j'ai l'impression. D'ailleurs, tu le vois avec des gens qui ont eu des parents présents et aimants, etc. Ils sont beaucoup plus, plus sains que Vladimir Poutine ou moi, d'ailleurs. Tu vois, il y a ce truc-là où... Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de donner à ma fille aujourd'hui, tu vois. De la présence et de l'amour.
Comment tu fais ?
Comment je fais ? En essayant d'être présent le plus possible quand je suis avec elle. Parce que j'ai une tendance à être là, mais pas là.
Tu veux dire être dans ma tête ou dans ta tête ou...
Ouais. Ouais. Donc être là et être là. Et moi, c'est beaucoup la toucher, beaucoup l'embrasser, beaucoup lui dire je t'aime. Tu vois, être de très proche, que ça fasse quelque chose de naturel. Et que pour elle aussi, ça soit naturel. Maintenant, aujourd'hui, elle me fait des câlins, puis c'est pas... Tu vois, je pense que la génération d'avant nous, c'était des parents plus froids. La génération d'après-guerre. Nos grands-parents ont fait la guerre. Mmh. Nos parents sont après-guerre, mais ils ont eu leurs parents qui ont fait la guerre. Et il n'y a pas eu trop ce « je t'aime » là. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont manqué de « je t'aime » par leurs parents. Même ma génération à moi, il y a beaucoup de gens qui ont manqué de « je t'aime ». Et je pense que c'est important. Avoir un père qui te dit « je t'aime » régulièrement, avoir un père qui reconnaît ce que t'es et ce que tu fais, et qui est là, et avoir une mère aussi, bien sûr, hein, mais je parle de mon côté à moi, et ben, je pense que ça donne beaucoup plus de chance dans la vie. Après, tu vois, ça crée une personnalité, je pense, complètement différente. Tout est basé beaucoup... tu sais, moi, je recherche la reconnaissance parce que j'ai pas eu celle de mon père.
Ouais.
Si j'avais eu celle de mon père, je courrais pas après la reconnaissance du public. J'en aurais pas besoin, tu vois. Et il y a du bien et du pas bien parce que ça m'a permis de faire un métier que j'adore et qui est génial. Mais en même temps, bah, j'ai manqué d'un papa.
Oui, puis le public peut pas t'offrir ce que ton père
non.
T'aurait offert, quoi.
Le public pourra jamais m'offrir ça. C'est comme une passoire sans fond. Et c'est pour ça que je veux le donner à ma fille. Pour qu'elle en ait le plus possible et qu'elle soit chargée, tu vois. Qu'elle sente que son père l'aime pour ce qu'elle est. Tu vois, que ce qu'elle est suffisant. Qu'elle a pas à faire plus, qu'elle a pas à me prouver quoi que ce soit. Qu'elle a pas à faire quoi que ce soit pour que mériter mon amour. Qu'elle a pas, tu vois, juste être elle, c'est assez pour être merveilleuse à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? On a été élevé à vouloir être des bons enfants, à vouloir être gentil, à vouloir être sympa, être poli. Et on s'est rendu compte qu'en échange de ça, ben, on avait l'amour de nos parents. Et j'ai envie qu'elle ressente mon amour juste pour ce qu'elle est, et non pour quelque chose qu'elle fait ou qu'elle dit, tu vois. Même si je l'éduque, hein. Je dis, tu vois, je suis un parent, tu manges pas, tu craches pas la bouche pleine, tu joues pas de la nourriture, tous les trucs normaux. Mais je veux dire, c'est que je veux pas qu'elle sente que, ah, mon père m'aime parce que je suis une fille polie et une fille gentille. Je veux qu'elle sente que mon père m'aime parce que je suis moi.
Il y a un moment assez fou où tu fais monter un mec sur scène
ouais.
Pour lui faire un câlin. Et alors, je sais pas comment ça se passe habituellement, mais la fois où j'y étais, moi, le mec, il était pas à l'aise du tout, du tout, du tout. Bon, alors en plus, les gens ne te voient pas, mais t'es un grand gaillard qui fait 1m90, peut-être même plus.
98.
Ah bah ouais, presque 2 mètres. Et tu prends le gars... Bien sûr, tu fais monter un gars, tu fais pas monter une fille sur scène en plus, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire monter un mec sur scène et de lui faire un câlin?
Déjà parce qu'on en a besoin. Deuxièmement, parce que je pense qu'un jour je l'ai essayé, j'étais au Québec, j'ai dû vouloir l'essayer. Alors, parce que j'avais eu une idée comme ça, un flash, et j'ai vu ce que ça a créé. Et pas par rapport au rire. Je fais jamais dans mon spectacle quelque chose pour me moquer des gens ou me servir des gens pour... toi qui se sentent mal. C'est toujours dans la bienveillance et dans le partage. Et je trouve qu'un câlin, d'ailleurs tu le vois dans la salle, quand on se fait un câlin les deux, on se fait du bien à nous deux, on le sent les deux. Là. Ça tu le sais, que tu le sens. Et les gens, tu leur fais du bien. Au début, il y a un malaise, mais ce malaise-là se transforme en quelque chose de beau. Pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, quand tu fais un câlin à un inconnu, il y a un malaise. Mais tranquillement, quand tu te laisses aller, après 15, 20, 25 secondes, bah, tu te laisses aller dans quelque chose d'humain. Et finalement, on rentre dans quelque chose de « Ah, bah finalement, c'est beau, en fait. » On a oublié ce qui était beau. On a oublié ce qui était essentiel pour nous en tant qu'être humain, c'est le contact. Tu vois, le contact de moi toucher les bras, de mes amis, prendre des... quelque chose que j'aime foncièrement, tu vois. Et je pense que ça vient de là. Ça vient que j'aime faire des câlins. J'aime prendre les gens dans mes bras et je vois le bien que ça me procure et ça procure aux autres. Donc je me dis, si c'est ça, pourquoi pas le faire, tu vois. Et un jour, je l'ai fait sur scène et ça a créé un truc cool. Comment tu l'as vécu, toi? Je suis curieux.
Moi, j'ai trouvé ça assez génial parce qu'en fait, je comprends ton intention, tu vois, de vouloir faire un câlin. Et le mec en particulier, là, il a eu un mal fou à se détendre, tu vois. En plus, tu fais des blagues en même temps. Enfin, donc, en fait, ça. Bon, c'est normal, hein, t'es aussi dans ton rôle d'humoriste, mais forcément, ça fait rire les gens. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que je crois que c'est de ce fait-là beaucoup plus long pour le gars de rentrer dans le câlin, justement. Et surtout, moi, j'ai trouvé ça assez génial parce que, d'une manière générale, en tant que mec, on nous apprend pas à faire des vrais câlins aux autres mecs.
C'est vrai.
Donc, de les prendre vraiment, tu vois, dans les bras. Et pas juste de tape, tu sais, comme on a parfois dans les films, genre top, 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 une petite tape dans le dos, quoi, tu vois. Non, c'est pas ça dont on parle. C'est vraiment de faire un vrai câlin et d'avoir une vraie étreinte. On nous apprend pas ça, tu vois.
Il y avait un article qui était paru dans le journal Le Monde en 2016, d'une psychologue, je sais plus son nom, qui disait que pour qu'un être humain survive, il lui fallait 7 minutes de câlin par jour. Et ça, les gens peuvent le trouver sur Google. C'est écrit partout. Et tu te rends compte qu'on n'a pas 7 minutes de câlin par jour. D'ailleurs, je demande aux gens, c'est là la base de ce câlin-là. C'est lever la main les gens qui n'ont pas eu 7 minutes de câlin aujourd'hui. Et 98% de la salle, s'ils sont sincères, lèvent la main. Et donc je me dis, bah tu sais quoi, bah on le fait. Moi non plus, j'ai pas eu ça. Donc viens, on se le donne. On se fait du bien. Tout le monde, tu vois. Et voilà. Et des fois, je tombe sur des hétéros, des fois, je tombe sur des homosexuels. Et il y a quelque chose de beau, tu vois. Parce qu'on s'en fout. Que tu sois hétéro ou gay ou machin, bah il y a quelque chose de. Il y a quelque chose d'humain.
D'humain, ouais.
Il y a quelque chose d'humain. Et c'est ce qui ressort de ce spectacle-là, je pense. Tu vois. Et donc, ça peut avoir l'air bizarre, surtout à Paris, où tu te dis, il y a une base du théâtre, hein, à Paris. Il y a quelque chose de. On est séparés de l'artiste. Ouais. Moi, je veux que les gens sentent que finalement, on est tous ensemble, tu vois. Et je dis ça aux gens quand ils arrivent dans la salle. Je leur dis, vous arrivez séparés, mais je veux que vous partiez tous ensemble. Je veux qu'on ait créé un truc ensemble. Moi, je vais être le chef d'orchestre. Parce que vous êtes venu voir un spectacle, mais on va le créer tous ensemble. Et c'est ça que je veux essayer de créer en parlant beaucoup aux gens, en improvisant, en leur parlant, en donnant des messages de bien-être, en connectant avec eux à différents niveaux. Je veux créer un village, quoi. Je veux créer un truc humain, finalement, dans ce show-là. Je veux que les gens sortent de là en disant « j'ai ri », mais quelque part, bah, tu sais quoi, ça me fait sentir bien. Je me suis senti bien dans ce spectacle-là. Et c'est ça que je veux créer. Là, depuis la semaine dernière, je fais des câlins aux gens à la sortie de la salle. J'ai essayé ça. Je me suis dit, si vous voulez, je sors pour faire des câlins. J'en ai fait une quinzaine. Ça a l'air con, mais les gens qui veulent des câlins à la sortie des shows, ouais. Ben, y en a. Et en fait, tu te rends compte qu'on a besoin de ça, tu vois. On a besoin de se retrouver. On a besoin de reconnecter en tant qu'humain. On l'avait perdu avant la Covid. On l'a tué pendant la Covid.
Bien sûr.
Et là, moi, je pense que j'ai envie de le faire renaître.
Ah, c'est cool.
À ma façon.
J'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, faites-vous des câlins, en fait.
Ben, ouais.
Ça...
Je pense, ouais.
Ça coûte pas grand-chose, quoi.
Non.
Tu parles aussi de couple.
Ouais.
Je voudrais qu'on parle de couple. T'es en couple depuis...
13 ans.
Depuis un petit bail, ouais, c'est ça. Comment aujourd'hui comment tu te perçois, toi, au sein de ce couple, en tant que mec? Parce que je crois qu'il y a un vrai truc compliqué, c'est que... Je te demande ça parce qu'en fait, je crois que pour les mecs, c'est compliqué... de montrer de l'amour, tu vois. On nous apprend pas à ça. Alors peut-être que toi, ayant été élevé par des femmes, comme tu disais, ça a peut-être été plus simple pour toi. Mais j'ai pas l'impression que on ait beaucoup de modèles masculins qui nous montrent ce que c'est que d'aimer d'une manière générale.
Tu sais, il y a cette phrase qui dit aime comme t'aimerais être aimé. Tu connais cette phrase-là?
Non, mais elle est chouette.
C'est une phrase connue qui dit aime comme t'aimerais être aimé, et je pense qu'elle est fausse. Je pense que la vraie phrase, c'est « aime comment l'autre aimerait être aimé ». J'ai réalisé qu'on a tous des langues de l'amour. Il existe 5 langues de l'amour. Tu les connais?
Ouais, il y a les gestes. Enfin, c'est ça, tu peux des petites attentions, quoi.
Ouais.
Il y a le fait de toucher, il y a le tactile, il y a le fait de dire les choses.
Ouais, service rendu, tu vois, trucs comme
ouais,
ça.
C'est ça.
Et donc, souvent dans un couple... Tu dis, tu fais à l'autre ce que t'aimerais qu'il te fasse. Par exemple, moi, ma langue de l'amour, c'est le toucher physique. J'aime des petites caresses, un petit bisou, une caresse de la main, une main sur la cuisse, tu vois. Ça, c'est ma langue à moi. Et je me dis, ah, bah, si moi j'ai ça,
ça va être pareil pour ma femme. Donc je vais la caresser aussi, faire un petit bisou, machin. Puis tu te rends compte qu'elle n'est pas satisfaite. Tu te rends compte que sa bonbonne d'amour est vide. Et souvent, elle se plaint. Ah, j'ai pas ce que je veux. C'est de là que viennent les discordes de beaucoup de couples.
Ouais.
C'est qu'on va aimer l'autre comme nous, on voudrait être aimé. Et tu dis, pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tout ce que tu as fait, c'est ce que tu aurais aimé qu'elle te fasse toi ou qu'il te fasse toi. Je pense l'idée, et ça change vraiment tout, c'est d'aimer la personne comme elle veut être aimée. Et donc, c'est de savoir c'est quoi sa langue de l'amour à elle. Ma femme, par exemple, elle, c'est les petits services rendus. Donc, chez les conneries, si je vide la vaisselle, que je lui fais son café le matin, que je prépare un petit plat, tu vois, très peu. Mais ça remplit sa bonbonne. Et elle change complètement du tout au tout. Elle est souriante, elle se sent aimée, elle a envie d'être avec moi, elle a envie de moi, etc. Que si j'arrête ça, au fur et à mesure, cette bonbonne-là d'amour diminue et je la perds. Et je perds ma connexion avec elle.
Et tu lui as expliqué, elle, que toi, c'était plutôt le toucher.
Ouais. Ouais. Et puis, tu sais, des fois,
c'était pas forcément son premier truc à elle, c'est ça? Elle a pas forcément été élevée là-dedans à la base?
Non, en fait, je pense qu'elle, pour elle, c'est dur de toucher, parce qu'elle a pas été élevée là-dedans. Et pour moi, c'est dur de rendre des services. Alors que pour moi, toucher, c'est facile.
Ouais.
Et pour elle, rendre des services, c'est facile. c'est quand même bien fait et mal fait en même temps.
Exactement.
Et donc, je pense que c'est à chacun de faire un petit effort, qui est finalement pas si compliqué. Parce que si je rends des petits services qui me font plaisir de la voir heureuse, elle va avoir envie de me toucher, et donc tout le monde va être plein. Et donc finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué à la langue. Mais il faut juste le connaître et l'appliquer. Et je me suis rendu compte à plein de moments qu'on oubliait ça, et qu'on s'engueulait, et que ça partait. Et puis jamais tu trouves la solution, tu t'engueules, puis tu vas avoir raison, puis t'as dit ça, mais t'as fait ça, nanana, puis là ça part, puis tu sais même plus pourquoi tu t'engueulais. Et souvent tu te sépares, et tu trouves quelqu'un d'autre, et les mêmes problèmes reviennent. Et les mêmes, et tu te dis, mais attends, en fait, c'est pas l'autre le problème, finalement. Le point commun entre toutes ces femmes-là ou tous ces hommes-là.
Toutes ces séparations, c'est toi.
Toutes ces séparations, c'est toi. Et donc, finalement, c'est d'arriver à se dire, bah non, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Comment on fait? Et justement, les langues de l'amour, c'est quelque chose que j'avais découvert et ça a changé une partie de mon couple. Et donc, maintenant, je l'applique.
Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on a souvent ce truc où on cherche à trouver quelqu'un qu'on va pouvoir changer.
Ouais.
Et qu'on va pouvoir modeler comme on voudrait quel ou il soit, quoi, tu vois.
Ouais.
Alors qu'en fait, fondamentalement, il n'y a qu'une personne sur qui tu peux vraiment évoluer, faire changer, c'est toi, quoi.
Exact. Toi, t'es en couple?
Non, pas maintenant, mais j'ai été pendant très très longtemps.
Ouais. Ouais.
25 ans.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que ça a terminé?
Les chemins qui se séparent,
ouais,
tu sais, petit à petit.
Ouais.
Sur peut-être, je sais pas, 5-6 ans de temps, tu vois.
Ouais.
Tu sens que vraiment c'est en train de bouger. Et je crois que c'était cool, tu vois, à un moment donné, de se dire, est-ce qu'on a envie de passer notre cinquantaine ensemble ou pas? En fait, non, pas tant. Bon, bah, vas-y, viens, on s'arrête alors.
Ah, cool.
Tu vois. Donc, ouais, ça s'est passé de façon plutôt cool. Ça nous a pas empêché de... C'est un truc que j'ai découvert, ça, c'est que... En fait, quoi qu'il arrive, quand tu te sépares, et bon, t'as des enfants, donc ça veut dire que tu continues à avoir une relation avec ton ex, il va falloir régler les dossiers qui sont pas fermés. Que t'as pas réussi à régler pendant le couple. Mais alors, tu vas les régler de façon différente. Mais en fait, là, moi, ça fait un an et demi que je suis dans... On règle des trucs qu'on n'avait pas réglés ensemble avant. C'est trop intéressant.
Ah ouais, ok. Bah, pourquoi pas.
Bah...
Ouais, c'est cool.
Ça permet de pouvoir, je crois, détendre la relation, quoi, tu vois.
Parce que vous avez des enfants ensemble?
On a deux enfants,
ouais. Ok.
Qui sont des plus grandes filles que toi, 15 et 13.
Ouais. Ah, cool, t'as de la chance.
C'est le modèle d'au-dessus.
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est adolescente.
Ta fille, elle a quel âge?
Elle a 2 ans.
Ah ouais, pipou.
Ouais, elle est toute petite.
Ok. Tu voulais parler de paternité?
On peut en faire, on peut parler de paternité.
Ouais.
Avec plaisir.
Comment t'as vécu, toi, le fait de devenir papa?
Moi, au début, ça a été assez difficile. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez égocentrique. Où j'ai beaucoup pensé à moi dans ma vie. Moi. Avant.
C'est le cliché de l'artiste, hein, excuse-moi.
Ouais. Non, t'excuses pas. T'as raison, c'est le cliché de l'artiste. Et je pense que quelque part, je pense que c'est aussi nécessaire de mettre beaucoup de temps sur son art pour. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas, mais je pense que tous les artistes ont besoin de mettre beaucoup de temps sur leur art pour le voir se développer. Mais bref, j'étais très égocentrique. Je pense que d'ailleurs, je suis encore égocentrique, mais. Et donc, le fait d'avoir une petite fille et de penser à quelqu'un d'autre au début, ça a été très challengeant. Surtout qu'elle est née au début de la pandémie.
Ah ouais, 2 ans, oui.
Ouais. Ce qui fait que j'étais juste papa. Je sais pas, papa, puis ami, puis humoriste, puis j'étais juste papa. À plein temps.
Faire ton métier pendant 2 ans, quoi.
Ouais. Mais j'ai aussi arrêté de voir des amis, j'ai arrêté de voir ma famille parce que j'étais au Québec. Donc être juste papa, eh ben tu sais quoi, j'ai un respect énorme maintenant pour les parents qui restent à la maison. Avant je connaissais pas. Mais maintenant des mamans ou des papas qui décident de rester à la maison, j'ai un respect immense parce que c'est plus dur qu'aller travailler. Aller travailler, c'est facile, sauf si tu travailles dans une mine à creuser toute la journée, mais je veux dire aller travailler, c'est beaucoup plus facile qu'être papa ou maman à la maison. Et j'ai un respect énorme pour ça maintenant. Et donc, pour faire suite, ensuite, ça s'est placé au fur et à mesure. Je pense que je me suis placé par rapport à ma paternité. Et maintenant, maintenant, c'est ça. Maintenant, je pense que je suis un papa beaucoup plus là et beaucoup plus présent, physiquement et mentalement pour ma fille. Mais pas au début. Et je me suis dit, à un moment donné, je l'aurais regretté.
Comment t'as fait pour... T'as eu une prise de conscience à un moment donné ?
Écoute,
t'as eu un déclic ?
J'ai un ami à moi au Québec qui est neurothérapeute. Et neurothérapeute, ça veut dire qu'on fait des séances, des fois, avec un peu d'hypnose dedans, où on peut revivre des scènes de nos vies. Et je suis allé voir beaucoup de choses avec mon papa. Je suis allé guérir beaucoup de choses dans le passé. Je suis allé guérir par rapport à la mort de mon père. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, c'est très bizarre ce que je vais te dire, un jour, je fais une séance et je revois la scène où mon père est mort, où j'étais là, parce que mon père montait à cheval, son cœur s'est arrêté, il est tombé. Et on était là, ma mère, ma sœur et moi. Et on fait une séance, et je sais pas comment c'est arrivé, je me suis retrouvé à la place de mon père. Comme dans un jeu vidéo.
Wow.
Tu sais, ouais, j'étais allongé par terre.
Call of Duty.
Ouais, Call of Duty. Et je voyais la main, mais qui était la main de mon père. Donc je suis mon père. Et je me vois, moi, enfant, et je vois ma sœur, et je vois ma mère. Je sais pas comment je me suis retrouvé là. Et j'ai ressenti tout ce que lui a ressenti. En fait, c'est une façon de dire que toutes ces émotions-là, moi, je les avais pris en moi. Je les avais épongées en tant qu'enfant de 8 ans. Et ce jour-là, en thérapie, eh ben, j'ai ressenti ça. Et donc, j'ai ressenti toute la culpabilité d'être passé à côté de ses enfants. De se dire, putain, j'ai passé ma vie à travailler, et là, je m'en vais, et je suis passé à côté du plus important, qui était vous. Parce que finalement, mon travail ou mon argent, je pars pas avec. Mais tous les temps que je passais avec vous et l'amour que j'ai pour vous, c'est ça le plus important. Je l'avais devant mes yeux et je suis passé à côté. Et je pense aujourd'hui, la plus belle leçon que mon papa a pu me donner, eh ben, c'est que je réalise ça. De ne pas faire la même erreur que lui et de vouloir focusser sur mon travail, mon argent ou mon pouvoir, mais sur ma fille, tu vois, sur ma famille. C'est plus important que le reste, tu sais. J'avais un papa très axé sur la réussite et donc je suis devenu comme lui. Et un jour, je me suis dit, réussir, oui, mais il y a des choses qui sont importantes aussi. Au moins aussi, voire plus importantes, et c'est ma famille, tu vois. Parce qu'elle est longtemps passée en deuxième ou en troisième. Maintenant, elle est en première.
Ok.
Donc c'est grâce à cet événement-là.
Waouh. C'est ouf.
Ouais.
Non, mais c'est la paternité, ça va faire... Ça ouvre au cerveau des cases folles, quoi.
Je sais pas si ça ouvre pour tout le monde. Il y en a qui continuent leur vie, il y en a qui abandonnent leurs enfants, il y en a qui passent leur vie à travailler, il y en a qui, tu vois. Je ne pense pas que c'est un truc qu'on peut dire pour tout le monde, je pense que pour
après,
certains.
Après, tu décides d'aller les ouvrir ou pas,
ouais.
Tu vois, je crois.
Exact.
En tout cas, ça, j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme, je ne sais pas si tu as déjà vécu un film où tu es d'un coup d'un seul en empathie avec les personnages qui sont des parents, là où tu avais pu voir ce film 5 ou 10 ans auparavant et ouais. Ça t'avait pas du tout fait la même chose, quoi.
Exact.
Ça te parle ou pas?
Si, ça me parle. Ça me parle de... Tu sais, un peu comme quand quelqu'un dit quelque chose, puis ça te touche pas, puis tu entends la même chose 2 ans plus tard, puis tu fais « Ah ouais !» Et finalement, tu l'avais entendu 2 ans avant, t'étais juste pas prêt. Donc c'est un peu ça, je pense aussi, non? C'est ça que tu voulais dire, c'est ça? Ouais.
Exactement. Est-ce que t'as, pour revenir à la masculinité, est-ce qu'il y a des choses que t'as pu faire en tant que mec, où tu t'es dit « Non mais ça, c'est complètement à côté de la plaque. » Et en même temps... Bah, puisque c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec, bah ok, je vais le faire. Ça te parle ou pas?
Je sais pas si ça me parle en tant que mec, ça me parle en tant qu'être humain en général.
Ouais.
Vouloir faire des choses que on aimerait que tu fasses. Vouloir que, dans mon métier, entre autres, ou même en tant qu'être humain, tu vois. Mais il y a un exemple qui me vient, c'est dans mon métier, le fait de... Quand t'écoutes des artistes ou à la radio ou à la télé, ils ont toujours l'air trop gentils, trop cool, trop sympa, trop... Quand en fait, ils sont pas juste ça dans la vie, tu vois. Mais ils disent ou ils font ce que les gens veulent entendre pour vendre leur image.
Et donc, il y a ce truc-là un peu, tu vois. Je veux faire tout pour me faire aimer. Un peu comme les politiciens. Je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Vous allez m'élire. Et ensuite, je vais faire ce que je veux. Je n'ai plus rien à foutre de votre gueule. Ce qui est le cas de beaucoup de politiciens.
Ouais.
Mais quand je dis politiciens, nos politiciens sont juste le reflet de ce qu'on est. Si on se regarde très sincèrement. Ils sont pas différents de nous. Faut arrêter de dire, oui, lui, c'est lui le méchant et moi, je suis bien. Je pense que ce gars-là est ce qu'il est parce que t'es ce que t'es aussi. On est tous responsables de ça. Donc en fait, ils sont juste un modèle voyant de ce qu'on est. C'est-à-dire, on dit ce que vous voulez entendre pour se faire aimer et avoir ce qu'on veut, puis après, on fait autre chose. Donc je pense que c'est en général que ça me parle. Pas juste en tant que mec ou que papa, tu vois.
Je comprends. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel t'aurais aimé que je t'amène et dont on n'a pas parlé?
Non.
Non?
Non, j'aime... je trouve ça hyper agréable. Parce qu'on a pris le temps. Et merci pour ça.
Bah avec plaisir.
Ça fait du bien de prendre du temps de parler de plein de choses et de, tu vois. Je comprends pourquoi tes auditeurs apprécient ce que tu fais. Parce que, non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de cool, de, tu vois, de simple.
Écoute, l'objectif, c'est que si les gens en face de moi qui ont un micro, ils passent un bon moment, normalement, les gens qui sont derrière avec leur casque et leurs écouteurs, normalement, ils devraient passer un bon moment aussi, quoi.
Ouais, effectivement, c'est juste.
Ouais, c'est cool. Tu joues donc... on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux.
Ouais, réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, t'es Jérémy Demey 2, c'est ça, sur Insta?
Sur Insta et Jérémy Demey officiel sur Facebook.
Voilà.
Et puis sinon, au Théâtre La République, le jeudi et le samedi à 21h30.
Waouh.
À Paris, dans le 10e.
Cherchez sur les internets, quoi.
Ouais.
C'est ça, vous allez trouver. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi, merci beaucoup.